Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Comme chaque mercredi, à partir de 16h, vous avez rendez-vous avec Lille 1 Info, magazine consacré à l'Université Lille 1. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de science et notamment de pollution de l'air. Voilà donc cette pollution, eh bien, elle a été abordée récemment dans le cadre de la fête de la science qui a eu lieu un peu partout en France et notamment bien sûr ici à l'université. Pour parler de ce thème, de ce retour sur cette fête de la science 2014, nous avons invité plusieurs personnes donc, qui bien sûr ont à voir avec l'université Lille 1. Je voulais donc introduire Anne Burlet-Parandel qui est chargée de communication scientifique pour le LabEx Kappa, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Patrice Hubert, qui est doctorant en deuxième année, physico-chimie de l'atmosphère de Lille 1. Bonjour aussi.
Bonjour.
Et puis Christopher Bettencourt, qui est doctorant en première année, combustion à Lille 1. Donc, le même labo d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, on va revenir sur cette fête de la science, donc un événement annuel national qui s'est décliné notamment à Lille 1. Peut-être qu'on peut, Anne Burlet-Parandel, revenir sur cet événement et aussi, après on va peut-être parler plus dans le fond de votre mission dans ce cadre-là.
D'accord. Alors la fête de la science est un événement national qui est organisé chaque année. Cette année c'était la 23e édition. Et dans ce cadre, le LabEx Kappa pour lequel je travaille a organisé en collaboration avec le CNRS un événement, une animation à la délégation régionale du CNRS.
Voilà, donc cette animation, elle était destinée à quel public ?
Alors à tous les publics, scolaires, grand public et professionnels.
Et qui l'animait d'une manière plus précise ?
Les scientifiques, alors les chercheurs, post-doctorants, doctorants, ingénieurs d'études et de recherche, membre du laboratoire d'excellence Kappa.
Donc ce laboratoire Kappa, ça veut dire quoi en clair, sans décodeur ?
Alors, c'est un acronyme pour Chemical and Physical Properties of the Atmosphere. Et donc ce laboratoire, ce projet, s'intéresse à la physique et la chimie de l'atmosphère, de l'environnement atmosphérique. Il regroupe 7 laboratoires de recherche. Et donc ces 7 laboratoires se rassemblent dans 6 groupes de travail.
L'atmosphère en région, Nord-Pas-de-Calais, c'est un problème ?
Oui, c'est pour ça que le laboratoire d'excellence a été créé, notamment.
Joker. Donc, comment on sensibilise le public, je pense que c'était le but de votre présentation lors de la fête de la science, à ces problèmes justement qui deviennent récurrents, importants aussi pour la santé notamment.
Tout à fait. On a voulu revenir sur un événement qui a marqué les esprits, qui s'est passé le 14 mars 2014. C'était un pic de pollution aux particules. Donc on se souvient éventuellement des photos qui sont passées dans la presse de la tour Eiffel prise dans un brouillard de pollution ou des réductions de vitesse sur l'autoroute. Donc on a voulu revenir sur cet événement qui avait beaucoup été relayé par les médias et en reparler sous différents aspects. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet événement qui a pris la forme d'une enquête scientifique.
Donc cette enquête, elle avait au départ quelques questions à résoudre, je suppose.
Exactement.
Quels étaient vos principes de démarrage ?
Alors, le principe, c'était de faire participer tous les laboratoires du LabEx. Donc, on s'est réunis dans un premier temps pour définir les différents axes à aborder autour de ce pic de pollution. On a défini différents stands qui abordait les différentes questions du pic de pollution. Et ensuite, chaque stand répondait à une question grand public sur la pollution aux particules.
Donc le grand public entend souvent parler de particules fines, pour autant, sait-il exactement en quoi consistent ces particules ? Peut-être qu'on peut d'ailleurs demander à Patrice Hubert son avis sur la question, sa science.
D'accord. Alors, disons que les particules peuvent avoir différentes tailles, différents diamètres. Et ce qu'on appelle particules fines, ça va être des particules qui vont avoir un diamètre inférieur à 10 microns, par exemple.
Alors pourquoi elles seraient plus dangereuses que d'autres ?
Alors ces particules, en fait, comme elles sont plus fines, elles vont pouvoir pénétrer plus profondément, en fait, dans notre système de respiration.
Et là, une fois qu'elles ont pénétré dans le système de respiration, je suppose qu'elles passent dans le sang, etc.
Alors certaines, oui, mais généralement, en fait, elles vont rester, par exemple, dans nos bronches ou dans la gorge. Et c'est ça qui peut, en fait, engendrer certaines maladies.
Voilà, des maladies dont certaines chroniques après.
Oui.
Et là, ça devient un problème de santé publique, évidemment.
Exactement.
Donc, on a aussi parlé des causes de ces particules fines. Qui on peut mettre au banc de la société par...
Alors, il y a plusieurs origines de ces particules. Alors, il y a des origines dites naturelles, où en fait, quand on va avoir une tempête de sable, par exemple, ou une éruption volcanique, on va avoir des particules qui vont être mises en suspension dans notre atmosphère. Donc ça peut être la première raison. Et la seconde raison, ça peut être dû à des aérosols dits anthropogéniques, c'est-à-dire qui ont été générés par l'homme, en fait.
Donc on se souvient aussi de ce passage un peu délicat des poussières qui venaient des volcans d'Islande,
oui,
avec une interruption du service d'aviation civile, notamment. Hein. Donc ça avait vraiment marqué les gens, savoir qu'à des milliers de kilomètres, il pouvait se produire un événement avec des conséquences locales. Donc après, il y a aussi tout ce qui est lié à l'industrie et aussi au transport.
Oui.
Donc ça, c'est le gros du problème quand même, non ?
Enfin, c'est une part non négligeable.
Non négligeable, ouais. Voilà. Christopher Bettencourt, donc, vous étudiez la combustion.
Oui, c'est ça.
Je suppose qu'on peut relier ces phénomènes à des problèmes de combustion ou de mauvaise combustion, de combustion incomplète ou de produits qui sont issus de cette combustion ou pas.
Ouais. Effectivement, il y a tout ce qui va être toutes les particules fines issues de la combustion, notamment, on parle souvent des diesels, la pollution aux particules fines par les diesels, parce que c'est... Ces véhicules émettent des microparticules qui sont des suies, en fait, sur lesquelles il va y avoir tout un petit cocktail de différentes molécules qui vont venir se fixer à la surface. Et en fait, après, lorsque les gens vont les respirer dans l'atmosphère, eh bien... ces particules, comme elles sont ultra fines, de l'ordre du nanomètre, hein, pour les particules ultra fines qui sont émises par les véhicules diesel, entre autres, hein, elles vont pénétrer très profondément dans les poumons, comme Patrice le disait. Et donc là, il va y avoir un échange entre ces particules-là et le sang. Et donc, tout ce qui s'était un peu collé sur ces suies, elle va passer dans le sang et va pouvoir éventuellement interagir avec... L'ADN, enfin, ça dépend ce qui est collé dessus, en fait. Hein, et tout ce qui est les benzènes et toutes ces choses-là, ça a des effets assez néfastes pour la santé humaine, quoi.
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas à Pékin, quand même, hein, en termes de pollution, quoique.
Non, c'est sûr. Mais ce genre de pollution-là, ça arrive... c'est pas très très fréquent, quoi, mais quand ça arrive, c'est pris, ça résulte de plusieurs phénomènes. Déjà, il faut qu'il y ait un phénomène naturel qui empêche les pollutions que nous émettons de s'évacuer naturellement, hein, parce que je crois que Patrice est plus expert sur la chimie, enfin sur les mouvements de l'atmosphère. Enfin, il faut, enfin, sans me tromper, hein, sans... donc il y a des conditions qui font que, en fait, les polluants ne s'évacuent plus par une circulation naturelle de l'air, en fait, et donc il y a une accumulation de toutes nos émissions qui va faire que tout le monde va se rendre compte qu'en fait il y a une pollution, et donc on voit ces espèces de brouillards, parfois ces odeurs assez fortes dans les agglomérations où il y a une forte concentration de véhicules ou d'industrie, et donc là on a ces problèmes de pollution assez importants. Mais sinon, la pollution est toujours là, sauf que dans ces événements de pollution, là, elle est accentuée et donc visible, en fait.
Alors, c'est vrai que vous faites partie des jeunes générations, donc qui découvrent une pollution qui est liée à certains facteurs. Moi, qui fais partie d'une génération bien précédente, j'ai connu ici le bassin minier avec ses industries polluantes. Et à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on faisait des relevés. Au moins, on ne les publiait pas. Et beaucoup de gens étaient aussi malades, peut-être plus que maintenant. Mais ça faisait partie, j'allais dire, des mœurs et des obligations de vivre sur un territoire où l'industrie est omniprésente. Est-ce que vous avez aussi connaissance des problèmes antérieurs? Est-ce que ça a servi de leçon aussi à traiter le présent, lueur des problèmes qui pouvaient se poser déjà à cette époque-là?
Bon, en fait, je pense que maintenant, on a pris conscience que ces pollutions, notamment en particules émises par la combustion, par tout ce qui est les phénomènes de combustion, ont un impact certain sur la santé. Et donc maintenant, on cherche à comprendre les origines de ces pollutions, hein, comme pendant la combustion, comme je vous disais, il y a la formation des particules de suie. Et donc ce phénomène de formation des particules de suie, hein, donc moi je travaille sur cette partie-là en fait pendant ma thèse. Donc il est assez, enfin le processus est assez connu en fait. Les étapes de formation des suies sont connues dans le feu, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe pour en arriver à la particule de suie. Et donc là, actuellement, moi, entre autres, on fait des études sur la formation des suies dans les flammes. Donc dans la flamme, les suies, en fait, c'est tout ce qui correspond à la partie jaune de la flamme. Donc ça, c'est des suies, en fait, qui vont être éventuellement réémises dans l'atmosphère si elles ne sont pas réoxydées. Et donc cette formation des suies, on la connaît assez mal en fait. Et donc là, on fait des études pour mieux la comprendre. Et donc quand on saura la mettre, on va dire, en équation, on pourrait éventuellement intervenir pour réduire ces émissions et donc régler le problème à la source et pas après, quoi.
Donc c'est vrai qu'on continue de produire des voitures qui marchent au diesel, on va dire, hein, des moteurs diesel. Est-ce qu'on peut imaginer un jour des moteurs diesel qui auraient résolu ce problème de mauvaise combustion ou combustion incomplète ou particules fines? Est-ce qu'on peut imaginer des moteurs diesel qui deviennent propres dans quelques années?
Enfin, d'après ce que je sais, d'après mes études, tout ça, déjà, il y a une grosse évolution par rapport au diesel d'il y a 20 ans, les voitures diesel d'il y a 20 ans et celles de maintenant. Il y a eu l'invention du filtre à particules, hein, qui stoppe une grosse partie de ces particules, mais qui laisse forcément passer les plus fines, donc les plus dangereuses. Mais après, des moteurs de diesel propres sans particules, je ne sais pas si c'est faisable, parce que je ne suis pas un motoriste. Hein. Moi, je travaille dans les flammes, donc c'est avant. Et donc, les motoristes, eux, travaillent pour que les moteurs soient meilleurs, hein, donc polluent moins, hein, parce qu'ils sont aussi obligés de respecter tout ce qui est les normes, notamment, je crois que maintenant, on arrive à Euro 6, qui impose des réglementations au niveau des émissions en particules, et tout ici aussi, pas qu'en particules, mais aussi en émissions gazeuses, hein. Tout ce qui est CO2, tout ça. Donc, ils ont des limitations à respecter. Et donc, ils sont obligés d'améliorer toujours, notamment les moteurs diesel, pour continuer de les mettre sur le marché. Hein.
Donc, voilà, on n'a pas complètement encore réglé le problème. On l'a bien compris. Est-ce qu'on peut conseiller aux gens d'acheter des voitures à essence ou pas?
Alors, c'est compliqué parce que l'essence, enfin, je suis pas sûr de ce que je vous dirais là, ça émet certes moins de particules, mais il y a toujours un plus et un moins, quoi. Les diesels, ils vont émettre plus de particules, les essences vont avoir une pollution gazeuse en émettant des gaz qui polluent plus, vous voyez, donc il faut choisir le moins pire.
Voilà. Rouler moins peut-être aussi,
oui,
prendre les
transports
en commun, c'est l'idée.
Je pense que ça, c'est le...
Donc, est-ce que cette journée de sensibilisation, hein, dans le cadre de la fête de la science, par rapport au public qui était concerné, donc qui vous a rendu visite, c'était l'occasion de vous poser des questions, peut-être aussi de réagir ou de se positionner d'un point de vue sociétal, hein, par rapport à des gens qui pourraient décider de l'avenir, de l'environnement et de l'atmosphère notamment?
Ben, Nous, sur, nous on a intervenu, enfin, moi personnellement avec Patrice, on a intervenu sur le stand qui traitait pourquoi la visibilité diminue pendant un pic de pollution. Mmh. Et donc on mettait en évidence cette capacité qu'ont les particules, hein, qu'on appelle aussi aérosol, parce qu'il n'y a pas que les suies qui sont des particules, ont de diffuser la lumière en fait. Et donc on leur expliquait que... on s'appuie d'abord sur un poster, là où on expliquait... La définition de la diffusion de la lumière d'abord dans une atmosphère qui est propre, hein, comme ici dans cette pièce, donc là on se voit sans difficulté, et ensuite on faisait voir notre schéma où il y avait là cette fois-ci une pollution aux particules, donc on schématisait ça par des sphères rondes, et donc en fait lorsqu'il y a une pollution aux particules, ces aérosols viennent faire une sorte comme un écran en fait, parce qu'ils diffusent la lumière provenant de l'objet, par exemple si on regarde un immeuble, et donc nous on reçoit moins de lumière de cet objet, et donc on le voit moins bien. Et donc on voit indirectement la présence des particules en fait par leur action et qu'elles ont à diffuser la lumière.
Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence de nature et même à l'œil nu entre un brouillard ou une brume normale et un brouillard de particules?
C'est difficile à expliquer, hein. Enfin, à faire la différence comme ça à l'œil nu, l'impression est la même en fait, hein. Sauf qu'il n'y a peut-être pas ce côté un peu humidité comme on peut avoir dans un brouillard. Mais bon, comme on a cette impression visuelle, des fois ça joue aussi un peu sur nos sens.
Donc on va dire que la brume reste un peu liée à la poésie, que les pics de pollution avec un fog qui s'impose à nos yeux, là, devient beaucoup moins intéressant pour... Pour l'homme, hein.
C'est sûr, un peu plus dangereux aussi.
Donc, quand il y a des pics de pollution qui sont importants, souvent le préfet envoie des infos à la presse, hein, notamment on en reçoit, avec des précautions à prendre. Est-ce que ces précautions-là, elles sont bien comprises par les gens? Est-ce que les gens ont conscience d'un minimum de précautions? Par exemple, hein, on va dire, ne pas forcément courir dans un brouillard de particules, ne pas forcément sortir n'importe où, n'importe quand.
Je pense que l'information est relativement relayée dans les médias actuellement. Mmh. C'est le rôle des associations ATMO, qui sensibilise les citoyens à cette question-là.
Alors c'est vrai que cette association publie une cartographie en permanence de l'état de l'atmosphère. On peut aller sur le site.
Oui.
C'est
possible
intéressant
d'aller
sur
le site.
Avec les zones en temps réel, ce qui est intéressant.
Oui. Et puis c'est possible aussi d'avoir une carte régionale, donc d'avoir l'état de l'air correspondant à sa région et... à quelque chose de plus spécifique.
Et c'est vrai qu'on voit aussi les abords des autoroutes qui sont plus rouges que les zones un tout petit peu plus loin. Donc quand on va habiter à un endroit, il y a peut-être intérêt avant d'acheter ou de faire construire, bien s'imprégner de l'environnement, savoir où est la bonne zone à habiter, non ?
Oui, j'imagine.
Surtout des gens assez sensibles à ces phénomènes qui doivent éventuellement regarder. Mais bon, c'est sûr que la qualité de vie... c'est toujours quelque chose qu'on prend en compte, et donc la pollution, je sais pas, enfin, on va rarement habiter à côté d'une usine par pur plaisir.
Mais habiter à côté d'une route très passante, ça peut être aussi néfaste, oui.
Ah oui, ça c'est, il y a des... éventuellement, oui.
La campagne, ça a du bon, peut-être.
Il y a d'autres phénomènes qui s'ajoutent, hein, je pense, hein, surtout niveau pollution atmosphérique due aux pesticides, toutes ces choses-là, ça se retrouve dans l'air. Hein,
étonné aussi qu'il y avait des zones de pollution qui se déplaçaient, en fait, et qui n'étaient pas forcément concentrées que dans les zones industrielles, mais que même dans la campagne profonde, on pouvait être atteint par cette pollution.
Oui, c'est ce que Patrice rappelait. En fait, il y a des pollutions naturelles aussi, qui peuvent venir de tempêtes du désert, et donc par les circulations de l'air dans l'atmosphère, font qu'on les retrouve ici, et donc ça a impacté, quoi.
Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est quand on voit l'air, la lumière qui se modifie, on peut se dire qu'il peut y avoir un risque. Déjà que ce soit un peu visible, c'est pas mal, parce qu'il y a parfois des choses très transparentes, mais qui sont dangereuses aussi. Mais
en fait, c'est toujours transparent. C'est juste comme il y a une grosse accumulation de ces particules dans l'air, en fait, il y a un jeu qui fait qu'il y a une épaisseur optique qui est assez dense, Et donc on voit, parce qu'on voit moins bien, alors qu'habituellement par temps clair on voit sans difficulté. Et donc là ça met en évidence la présence de ces particules. Et donc là on en a conscience, mais comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont toujours là, ces particules, sauf elles sont là en plus ou moins grande concentration. Et donc
donc cette concentration, elle est un peu équilibrée Nord et Pas-de-Calais, ou elle est plutôt limitée des villes particulières?
Moi, j'ai pas de chiffres.
Non, moi non plus. Je pourrais pas vous donner de chiffres comme ça.
Et le but de vos recherches, alors, c'est par rapport à votre laboratoire, c'est quoi?
Enfin, moi, comme je vous disais, moi, au PC2A, il y a une partie, une équipe de combustion qui va essayer de comprendre tous les mécanismes de formation, notamment des suies et d'autres, la combustion, les phénomènes, enfin le mécanisme de combustion, par exemple pour le méthane, le butane, enfin diverses espèces gazeuses ou même liquides comme différents carburants. Donc on essaie de comprendre au mieux ces phénomènes de combustion, en fait, pour pouvoir développer des mécanismes et donc ensuite éventuellement jouer sur les conditions par exemple les conditions de combustion, hein, dans un moteur, changer les pressions ou les choses comme ça, hein. Je suis pas un expert là, donc
ça viendra
peut-être. Et et ainsi pouvoir orienter plus les réactions, les produits des réactions vers des produits moins dangereux, moins nocifs que d'autres, ou des combustions incomplètes qui vont produire plus du monoxyde de carbone ou des choses comme ça, et donc jouer sur les conditions et faire que ça se passe au mieux, quoi. Parce qu'on peut pas vraiment s'en passer, on peut pas.
Donc on peut imaginer que votre carrière future, puisque vous êtes encore étudiant,
hein, oui, je suis en première année,
va être passionnante et vous allez être très demandé, parce qu'il y a vraiment des besoins quand même.
Enfin, tous les labos du LabEx, en fait, traite de ces phénomènes, de ces différents phénomènes de pollution, hein, comme Patrice, il intervient sur toutes les propriétés des aérosols naturels, hein,
oui,
des déserts, volcans, tout ça. Et moi, j'interviens entre guillemets, hein, je dis bien, moi, sur la compréhension de la formation des suies pendant les combustions, hein, comme quand on allume un briquet, la flamme est jaune. C'est qu'il y a des suies de produits, en fait, hein. Donc après, si vous voyez encore la flamme fumée noire, là, c'est encore des plus grosses suies. Elles sont assez grosses pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. Alors, parce qu'habituellement, elles sont pas visibles, quoi. Il y en a quand même qui sont émises, mais elles sont trop petites pour qu'on puisse les voir. Donc on n'en a pas conscience. Et donc...
Et votre carrière, vous l'envisagez plutôt dans le public ou plutôt dans le privé? Dans le public pour contrôler, vérifier, ou dans le privé pour aider les entreprises à éviter les plus gros pièges de la pollution?
Tous les labos travaillent plus ou moins avec des organismes privés, donc...
En partenariat,
donc on a l'habitude d'interagir avec EDF, GDF, toutes ces grandes industries, on va dire. Je me suis jamais trop posé la question où j'irai pour l'instant. Je sais que ce que je fais là, ça me plaît bien, donc je vais faire mes 3 années de thèse, et après je me poserai la question
d'accord,
quand ça viendra, quoi.
Patrice Hubert,
oui.
Par rapport à cette question aussi, votre avenir?
Alors moi, je me vois plutôt dans le public, à vrai dire. Disons que moi, la recherche, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien aussi faire de l'enseignement. Et c'est vrai que maintenant, dans le public, on cherche à la fois des chercheurs, mais aussi des enseignants.
Mmh.
Voilà. Donc si je peux trouver un poste qui me permet à la fois de faire ces deux activités, enfin moi, je suis partant.
Est-ce que vous imaginez des postes d'enseignants plus spécialisés dans les domaines de l'environnement? Est-ce que ça va devenir nécessaire? Ce serait quelque chose d'intéressant à développer?
Alors, c'est quelque chose qui a déjà été développé. Depuis l'année dernière, il y a eu un master international qui a été ouvert, que Christopher a suivi, qui est le master Atmospheric Environment. Donc, c'est un master qui vise à spécialiser, en fait, des étudiants dans le domaine de l'atmosphère.
Oui, et on ça. Peut aussi imaginer déjà des sensibilisations dans les lycées, par exemple?
Alors, disons que la fête de la science, notamment, ça a été déjà la première étape de sensibilisation. Et après, ouvrir des vocations, pourquoi pas, jusqu'à ce master international.
Très bien. Anne Burlet-Parandelle, une petite conclusion ou un complément ?
Oui, alors j'aimerais juste revenir sur l'événement qu'on a organisé. À travers cet événement, cet événement a pu avoir lieu grâce à l'implication de 30 scientifiques aux profils divers et variés. Donc des post-doctorants, des doctorants, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs d'études, de recherche. Et puis, nous avons invité un public scolaire, mais également le grand public. Et on a pu toucher environ 200 personnes à travers cet événement, ce qui est pas mal.
Vous pensez reconduire l'opération l'an prochain ?
Alors, cet événement, à travers cette animation, nous avons créé une série de posters qui est éventuellement déclinable en exposition itinérante. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage, oui, de pérenniser l'action qu'on a mise en place.
Un contact pour les personnes intéressées ?
Eh bien, moi, oui. Vous pouvez aller sur le site du LabEx Kappa et vous trouverez mes coordonnées.
Donc LabEx, LABEX.
Tout à fait.
Kappa, CA2PA.
Exactement.
Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée. Et puis peut-être à l'an prochain pour d'autres expériences.
Avec plaisir.
C'était Lille Info sur Radio Campus, comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Thank you.